Vous écoutez France Culture.
Réplique, portrait de Simone de Beauvoir avec Huguette Bouchardot et Daniel Salnave. Pour les anciens, comme le rappelle Pierre Hadot, la philosophie n'était pas seulement une enquête, une investigation, une thèse sur l'être, c'était aussi et même avant tout un exercice. Elle consistait moins dans l'enseignement d'une théorie abstraite que dans une attitude concrète, dans un style de vie déterminé qui engage toute l'existence. L'acte philosophique, pour les stoïciens comme pour les épicuriens, débordait, excédait l'ordre de la connaissance. Il s'inscrivait dans l'ordre du soi. C'était un progrès qui nous faisait plus être, qui nous rendait meilleurs. C'était une conversion qui bouleversait toute la vie et qui changeait l'être de celui qui l'accomplissait en le faisant passer d'un état de vie inauthentique, obscurci par l'inconscience, rongé par le souci, à un état de vie authentique dans lequel l'homme atteignait la conscience de soi, la vision exacte du monde, la paix et la liberté intérieure. L'existentialisme, au XXe siècle, a retrouvé quelque chose de cette conception et de cette pratique de la philosophie, rompant avec une démarche purement théorique et abstraite. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont incarné une nouvelle manière de vivre dans le monde, d'où l'attrait qu'ils ont exercé et qu'ils exercent toujours au-delà, très au-delà du public intellectuel et d'où dans ce public même la ferveur, la reconnaissance toute particulière dont ils restent l'objet, quelques jugements que l'on porte sur leur trajectoire politique. De cette reconnaissance témoignent les livres parus en cette année du centenaire de la naissance de Simone de Beauvoir, notamment la biographie qu'Huguette Bouchardot publie aux éditions Flammarion et Castor de guerre, le livre de Daniel Salnave, qui paraît aux éditions Gallimard. Et puisque Simone de Beauvoir, c'est indissolublement une vie, une œuvre et une proposition d'existence, je voudrais commencer par une question personnel à mes deux invités. Comment s'est faite pour vous la rencontre de cette œuvre et quel retentissement a-t-elle eu sur votre vie, Daniel Salnave?
Je dirais dans une formule, c'était une rencontre d'époque pour ma génération. Elle s'est faite d'abord avec l'œuvre de Jean-Paul Sartre. J'étais au lycée dans ces années extrêmement importantes, dans le milieu des années 50, et la lecture de Sartre était une lecture à la fois obligée, scandaleuse, nécessaire. Et c'est un peu plus tard, quelques années plus tard, aux alentours de ma 20e année, que j'ai lu Les Mémoires du jeune Firanger. Et quand j'ai lu Les Mémoires du jeune Firanger, j'ai éprouvé un sentiment que quelque chose là allait me déterminer pour longtemps. Mais je ne l'ai pas du tout lu comme l'émancipation d'une jeune fille ou d'une femme. Je l'ai lu comme un petit être humain qui prenait en main son destin. Et je dois dire que cela a eu sur ma vie des conséquences au sens propre incalculables. Et peut-être que 40 et quelques années plus tard, quand j'ai eu envie d'écrire ce Castor de guerre, c'est que j'ai voulu faire le point. Et sans du tout parler, je ne parle pas à égalité avec Simone de Beauvoir, mais je pense que je voulais faire aussi le point de cette génération à laquelle j'appartiens, de mon propre parcours à la fois intellectuel, politique, déterminé en grande partie par la présence et l'image de Sartre et surtout de Simone de Beauvoir.
Donc pour vous, la lecture des mémoires d'une jeune fille rangée a été plus importante biographiquement que celle du deuxième sexe?
En un sens, oui. La lecture du deuxième sexe est venue plus tard, et j'étais tout à fait dans la même situation que Simone de Beauvoir, commençant à l'écrire et disant Ah, j'avais jamais pensé, au fond, qu'être une femme pouvait brider ou brimer ou réduire mon destin. Pourtant, c'était son cas. Elle avait fait des études liées à sa situation de jeune fille de la bourgeoisie. Moi, j'avais fait des études, j'étais au lycée, et je n'avais jamais rencontré, ni dans mon parcours scolaire, ni dans mes études, ni dans mes débuts professionnels, l'ombre d'une restriction due à ma situation de femme. Or, probablement, y en avait-il que je n'avais pas vu. Et le deuxième sexe m'a aidé à me poser les questions, mais au fond, c'est vrai, c'est pas la même chose d'être une femme. Jusque-là, au fond, je ne dis pas que j'avais oublié que j'étais une femme, pas le moins du monde, mais je n'en avais, comme dirait Simone de Beauvoir, jamais souffert.
Huguette Bouchardeau.
C'est ce que vient de dire Daniel Salnave me touche beaucoup, parce que lorsque j'ai écrit mon premier livre, j'ai eu cette formule qui me paraissait résumer un peu l'expérience de mon contact avec Simone de Beauvoir et mon expérience tout court. Je disais, jusqu'à 17-18 ans, je ne m'étais jamais posé la question de savoir si j'étais un homme ou une femme. Je me sentais une personne humaine. Et lorsque j'ai eu à affronter le monde du travail, pour des demandes de poste, par exemple, en hypocagne dans les lycées, ou bien pour des engagements politiques. Là, j'ai compris que, en fait, c'était quelque chose d'être une femme et que ça n'était pas tout à fait naturel. Tout à fait naturel d'être considéré comme une personne humaine
quand on était une femme.
Et lorsque j'ai découvert Simone de Beauvoir, moi aussi, avec les mémoires d'une jeune fille rangée, je dois avoir quelques années de plus que vous, Daniel Salnave, mais c'était vraiment l'impression que je découvrais quelqu'un qui s'était heurté à des préjugés, à des conformismes, et qui arrivait vraiment à tenter de se débarrasser de tout cela. Et lorsque je me suis retrouvée jeune prof de philo, j'ai tenté de faire lire à mes élèves et les mémoires d'une jeune fille rangée et l'invité en parallèle à l'existentialisme est un humanisme qui figurait au texte que l'on pouvait mettre au programme de ces classes de philo, au même titre que des grands textes classiques. Et donc là, j'ai tenté d'introduire ce que je pensais être la vraie pensée, ce qui était le plus intéressant du point de vue philosophique pour Simone de Beauvoir, c'est-à-dire comment une vie se détermine avec ses libertés et sa non-définition préalable.
Oui, non-définition préalable, l'existence précède l'essence. Alors justement, un commentaire sur la formule la plus célèbre du deuxième sexe, qui a eu un impact considérable. On ne naît pas femme, on le devient.
Cette Daniel phrase, on la répète, on la commente, et parfois on la nie d'une manière qui est tout à fait imprudente et parfois extrêmement légère. Quand Simone de Beauvoir dit dans le deuxième sexe, pour écrire ce livre, pour réfléchir sur la condition des femmes, je m'inspirerai, dit-elle, de la philosophie et de la morale existentialiste. Eh bien, cette phrase en découle directement. Bien évidemment qu'on est femme, c'est-à-dire avec un sexe que la nature, l'arbitraire de la naissance, nous donne, mais ce qu'on appelle une femme, et d'ailleurs j'ajouterais ce qu'on appelle un homme, Elisabeth Badinter l'a bien montré quelques années plus tard, est une construction à partir de cette donnée de base qui est la donnée de sexe, d'où les études de genre. Mais Simone de Beauvoir n'a jamais voulu, contrairement à ce qu'on lui reproche aujourd'hui, effacer la différence des sexes au profit d'un universalisme que quelqu'un très imprudemment a récemment encore qualifié d'universalisme phallique. Je n'en crois pas un mot. Beauvoir a toujours dit, je me félicite d'être une femme, simplement je vois bien que être une femme, ce qu'on dit dans la société sous ce nom, est une construction. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une différence d'essai. Mais cette différence n'est pas une hiérarchie.
Cette différence n'est pas une hiérarchie. D'un autre côté, ce qui est commun à Sartre et à Beauvoir, c'est une méfiance considérable, et même plus qu'une méfiance, une hostilité à l'endroit de toute idée de nature. Alors justement, si cette différence existe, et si d'un autre côté, il faut donner congé à l'idée de nature et lui substituer le concept de liberté, jusqu'où va-t-on, en ça, quelque sorte. C'est, me semble-t-il, un
entre
problème.
Entre l'idée de nature et l'idée de liberté, il y a cet ensemble constitué qui devient un ensemble presque naturel et qui est l'ensemble culturel, la civilisation, toutes les choses qui sont données autour de nous comme référence. Et je crois qu'on entre inévitablement, quand on se développe, avec deux fondements essentiels, la nature, bien sûr, la biologie, tout ce qui existe de ce côté-là, et puis d'autre part, tout ce qui est donné culturel et qui vous forme largement autant que les prédispositions naturelles.
Daniel Sanard.
Il est très frappant que, sous ce mot de nature, d'ailleurs, se cachent, à mon avis, un certain nombre d'ordres de choses différents. Le premier point, à mes yeux, c'est qu'ils ont pris ce pari de résorber entièrement toutes nos déterminations dans un acte qui nous pose dans le monde, qui nous jette dans le monde et qui nous définit par nos actes. Mais les résorber, ce qui ne veut pas dire les nier, elles continuent d'exister, bien sûr. L'autre point, certainement, c'est que la conséquence en est chez eux, ou la cause, je ne sais pas, car dans ce cet ordre de choses, on ne sait jamais ce qui est au départ. Il y a chez tous les deux un refus de cet antinaturalisme philosophique. Il se comprend, se justifie, s'explique très bien philosophiquement. Mais l'anti-organicité chez eux est poussée très loin. Elle est très forte chez eux. Il y a le refus du visqueux, du collant, du germinatif chez Sartre. Et chez Simone de Beauvoir, ça nous aide à éclairer cette position qui est souvent si mal comprise sur la maternité. Je le dis juste en un mot.
Oui,
d'un
sûr.
Côté, elle pose qu'on ne doit pas définir les femmes par leur destin, leur mission ou leur obligation à la maternité. Et là, je la suis à 100%. Mais en même temps, lorsqu'elle se justifie elle-même, elle dit « je n'ai pas voulu être mère », tout le monde l'accepte, mais elle ajoute qu'il y a, on le sent et on le voit au détour de tel ou tel texte, il y a une idée de la germination, de ce quelque chose qui prolifère gratuitement, donc qui lui fait réellement horreur. Et qu'est-ce qui est le premier dans les deux? Je n'en sais rien. Mais c'est souvent ce qui entraîne un malentendu. On ne veut plus comprendre la formidable avancée qu'elle a faite dans le deuxième sexe en disant « la femme peut être mère mais n'est pas obligée à l'être ». Au fond, c'est comme la liberté de conscience qui est celle de croire ou de ne pas croire. Et puis, cette espèce de refus vraiment crispé de toute l'organicité qui fait que quelquefois, elle n'est pas comprise, bien sûr.
D'un autre côté, j'entends quand même dans son œuvre une tonalité que je qualifierais timidement de féminine. Alors je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à convoquer à nouveau la notion de nature, mais je voudrais lire les dernières lignes si célèbres et si belles de La force des choses et vous demander de les commenter. À votre commentaire, j'ajouterai peut-être le mien, notamment pour ce qui concerne le dernier mot de la force des choses. Oui, le moment est arrivé de dire jamais plus. Ce n'est pas moi qui me détache de mes anciens bonheurs, ce sont eux qui se détachent de moi. Les chemins de montagne se refusent à mes pieds. Jamais plus je ne m'écroulerai, grisé de fatigue dans l'odeur du foin. Jamais plus je ne glisserai solitaire sur la neige des matins. Jamais plus un homme. Et puis, j'en viens aux dernières lignes, où elle fait une sorte de récapitulatif des grandes images de sa vie et de tous ses voyages. Nulle part cela ne ressuscitera, rien n'aura eu lieu. Je revois la haie de noisetiers que le vent bousculait et les promesses dont j'affolais mon cœur quand je contemplais cette mine d'or à mes pieds, toute une vie à vivre. Elles ont été tenues. Cependant, tournant un regard incrédule vers cette crédule adolescente, je mesure avec stupeur à quel point j'ai été floué. Huguette Bouchardeau.
C'est vraiment très beau et ça dit vraiment ce que nous ne pouvons que penser de l'existence qui se termine par la mort. La mort est quelque chose d'insupportable au sens d'impensable. Elle est peut-être insupportable sur le plan affectif quand il s'agit des autres. Mais quand il s'agit de ma mort, je ne peux pas la penser, tout simplement parce que je ne peux pas me penser n'étant pas. C'est la définition même de la mort. Et je trouve que « j'ai été floué » signifie simplement comment peut-on avoir vécu une existence qu'on a voulu riche, pleine, qui est pleine à la fois de sensations merveilleuses, de rapports amoureux, de tout ce qui peut faire la beauté de la vie, la connaissance aussi. Elle cite là tous les paysages qu'elle a aimés, par exemple. Mais comment peut-on vivre cela et ne plus être là pour le dire, le penser, le sentir? Donc, j'ai été flouée de tout ce que je mettais dans l'espoir de mon adolescence et qui était la possibilité d'être une conscience éveillée. Voilà ce qui me paraît être essentiel. Mais je ne vois là aucun rapport avec une pensée spécifiquement féminine.
Mais j'essaierai de défendre mon point de vue quand même. Daniel Sanard.
En tout cas, en vous écoutant lire ces deux passages, on peut faire voler en éclats les arguments de ceux qui ne l'ont pas lu et qui pensent que Simone de Beauvoir n'est pas un grand écrivain, n'est pas un bon écrivain. Ce sont des phrases magnifiques que vous avez lues, mais on peut en piocher dans l'ensemble de son œuvre, aussi bien des essais, des mémoires que les romans d'ailleurs. Alors, l'autre point, c'est évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Dans la mesure où nous voulons accepter cette différence, nous voulons refuser que cette différence soit une hiérarchie, soit dans un sens, soit dans l'autre, car de même que j'ai cru le comprendre dans ce que vient de dire Huguette, je ne veux ni d'une supériorité masculine, mais je ne veux pas non plus d'une exaltation des valeurs féminines aux dépens du masculin, qui était un renversement qui, au bout du compte, nous laisse sans aucun résultat. Ce que je crois, c'est que, et probablement chez Beauvoir et Sartre, dans cette violente poussée vers l'avenir, dans cette violente vectorisation de leur pensée et de leur œuvre vers l'avenir, tout ce qui relève du passé et de l'accumulation culturelle sur nous est au fond suspendu. Et moi, je me considère en tant que femme héritière aussi de toute une féminité qui englobe peut-être le temps où les femmes étaient secondaires, alors que je peux profiter d'un temps où ce n'est plus le cas, qui englobe aussi des regrets, des dispositions. Quand Beauvoir dit à peine 50 ans, plus jamais un homme, elle dit quelque chose qui était une violence faite aux femmes et qui continue d'ailleurs, qui n'a pas entièrement disparu, qui continue de limiter les femmes à un type de sexualité qui doit... Bon. Mais je voudrais revenir à Flouet. Alors, ce mot floué m'a beaucoup intéressé aussi, parce que ça a été un des grands malentendus sur l'œuvre de Beauvoir. Le mot floué est très clair pour elle. C'est un mot qui vient du vocabulaire du jeu. C'est veut dire j'ai été trompée par un adversaire qui ne joue pas le jeu. Et quel est cet adversaire? C'est la vie qui ne joue pas le jeu. Même si j'ai réalisé une œuvre, le fini de l'œuvre ne vaudra jamais l'infini des promesses. Et la vie, de toute façon, me trompera.
Alors, je vais émettre ma propre hypothèse maintenant. Elle va dans le sens de ce que vous avez dit l'une et l'autre. Ce n'est pas une opposition. Mais il me semble précisément que la tentative de Sartre et de Beauvoir, c'était non seulement de mettre la liberté à la place de la nature, mais aussi d'y mettre l'histoire, comme peut-être histoire de l'émancipation, accomplissement possible, souhaitable de la liberté. Et chez Sartre, ça va très loin. Ça va très loin, notamment dans l'article qu'il a écrit sur Camus, et nous reviendrons peut-être à Camus tout à l'heure. Il dit ceci: « Vous vous révoltiez contre la mort, mais dans les ceintures de fer qui entourent les villes, d'autres hommes se révoltaient contre les conditions sociales qui augmentent le taux de mortalité. » Il parle du chômeur ou du manœuvre qui accuse les hommes pour la mort d'un enfant. Il savait bien que l'absurdité de notre condition n'est pas la même à Passy et à Billancourt. Or, il me semble que là, Simone de Beauvoir est amenée, non pas à contredire Sartre, mais à dire autre chose. Et là, je rappelle le livre de Mona Ozouf, « Les mots des femmes », portrait de 10 femmes, dont Simone de Beauvoir. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun, dit Mona Ozouf? Toutes remarchent ce grand malheur des femmes, ne pouvoir dans la vie compter que sur la jeunesse. La plupart vivent avec épouvante l'approche de la vieillesse. Certains, en anticipant, comme Madame de Staël, elle sait dès 20 ans que tout marche vers le destin dans la vie des femmes. D'autres, comme Beauvoir, en la découvrant brusquement. Toutes vivent le désespoir de la limite. Et il me semble, si vous voulez, que ce que j'entends dans les propos de Simone de Beauvoir, c'est ceci. Il est peut-être plus difficile pour une femme de laisser la condition historique absorber en quelque sorte la condition humaine. Il y a un reste de la condition historique qui vaut pour tous, mais peut-être auquel les femmes sont plus sensibles. Et vous citez des phrases absolument inouïes, Daniel Sanav, sur la vieillesse, sur sa propre vieillesse, chez Simone de Beauvoir, sur ce visage qu'elle ne reconnaît pas, vérolé en quelque sorte, je ne sais pas, je n'ai plus tout à fait la formule en tête, mais cette vérole en elle. Et donc, il me semble qu'elle est là, amenée à précisément se retrouver face à la condition humaine, et elle a peut-être été flouée dans la mesure où elle a voulu croire que tout était historique, et non, il y a un reste pour tout le monde, mais peut-être à ce reste, les femmes sont plus sensibles que les hommes. En tout cas, Simone de Beauvoir y était plus sensible que Sartre.
Ce qui est sûr, c'est que quand vous citez la phrase de Sartre qui dit « Camus, vous occupez de la mort, mais la mortalité est pire dans les banlieues, etc. » Bon, si j'ose dire, il faudrait penser les deux à la fois. Ce qui a été très difficile pendant très longtemps, c'est qu'au fond, on ne pouvait pas, si on pensait d'un côté, on ne pouvait pas penser l'autre côté. Je crois qu'il faut penser les deux. Il faut penser ce qu'on sait encore aujourd'hui sur le nombre d'années de retraite qui attend un ouvrier de la sidérurgie et le nombre d'années de retraite qui attend un cadre supérieur. Ce ne sont pas les mêmes, on est tout à fait d'accord. Mais cette expérience de la mort, c'est Malraux d'ailleurs dans un congrès avant la guerre pour la liberté de l'esprit, etc., qui disait « Et la mort, qu'en faites-vous » Et les marxistes lui avaient répondu « Pour l'instant, on a autre chose à penser. » Il faut aussi penser la mort. Il y a chez Beauvoir, est-ce que c'est lié à sa condition de femme? Il y a quelque chose qui est très profond depuis le début et qui n'apparaît pas seulement quand elle sent les stigmates sur son visage à 40 ans, visage éclatant d'ailleurs, mais qu'elle devine pour l'avenir. Il y a quelque chose qui commence dans son très jeune âge, qui est cette formidable saisie du temps comme un temps qui nous est compté, un temps qui nous est compté, qui nous sera retiré et dont il faut tirer toutes les immenses pépites d'or qu'il contient. Que cela soit lié pour l'essentiel à sa condition de femme, j'en suis persuadée. Mais je crois que le temps n'est encore pas venu de l'égalité des hommes et des femmes devant le vieillissement du corps. Même si les hommes aujourd'hui luttent contre ce vieillissement par les techniques que les femmes depuis longtemps se sont assignées, toutes sortes de chirurgies et de prothèses, il y a toujours, parce que sur le corps de la femme se focalise quelque chose que Sartre dit très bien d'ailleurs. C'est au fond la femme qui incarne le désir, et c'est sur elle que se focalise le désir social des hommes et des femmes, homosexuels et surtout hétérosexuels. Et ce désir-là, tant qu'il ne sera pas également partagé entre les deux sexes, les femmes subiront de plein fouet cette perte du désir adressé au corps des femmes. Et c'est ce que Beauvoir dit très bien. Oui, et ça, c'est magnifique.
Quand vous dites « tant que », effectivement, que,
oui,
donc ça veut dire
que... Oui, c'est parce que je pense que jamais.
Non, et oui, mais peut-être aussi parce que vous voulez faire réintervenir le concept d'histoire. Moi, j'ai été frappé par cette phrase que vous citez, et je la retrouve, et il faut la citer dans son exactitude. « Mon ancienne tête, où une vérole s'était mise, dont je ne guérirai pas. » Il y a une violence là, une violence qui est celle du destin, et qu'on ne peut pas réduire simplement à un mauvais rapport entre les hommes et les femmes, qui tient peut-être aussi à la limite de notre condition. Mais je la vois
quand
parler de la condition humaine.
Je dis tant que, je ne désespère pas quand même qu'un jour, un homme puisse, en voyant apparaître les traits du temps sur son visage, entrer dans un profond désespoir. Mais puisque, je ne dirais pas tant que, mais puisque il ne rencontre aucune limite ni au désir qu'il éprouve, ni à celui qu'il suscite, il n'a pas de raison, en effet, de déplorer les marques d'un âge qui, au contraire, le rendent désirable auprès des très jeunes femmes.
Huguette Bouchardeau.
Oui, il me semble qu'on touche là à l'un des clichés les plus répandus qui concernent les hommes et les femmes. Au début du XXe siècle, le théâtre, les comédies, parlaient des femmes en disant « le sexe ». Les femmes, c'était le sexe. Les femmes, c'était la séduction. Les femmes, c'était la beauté. Et on sait qu'à partir de 30 ans, puis après on a reculé à 40 ans, Simone de Beauvoir après, elle-même qui avait fixé cet âge du vieillissement à 40 ans, mais, et puis après a reculé à 50. Donc on sait que une femme qui était vieille et considérée parce que non désirable à 30 ans par quelqu'un comme Freud et beaucoup d'autres. Mais moi je crois que c'est seulement parce que le discours sur le sexe, le discours sur le désir est un discours qui est tenu par les hommes. Qui a été tenu par des philosophes, des psychologues, les hommes, des hommes en général. Et que le vieillissement n'est pas encore, vous le disiez très bien, n'est pas encore perçu par les hommes comme une déchéance, et il faut voir comment ils revendiquent, pour ceux en particulier qui ont un travail intellectuel ou de création, comment ils revendiquent une sorte de jeunesse qui ne subit aucun outrage. J'écoutais l'autre jour une émission où des hommes étaient très âgés et où chacun disait « mais moi, chaque jour, je travaille davantage, je travaille plus ». Il y a une sorte de négation forcenée du vieillissement du corps, alors que la femme, elle, est accablée souvent par ce vieillissement du corps, puisqu'elle a été définie d'abord par le désir qu'elle suscite. C'est tout.
Oui. Enfin, moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que peut-être y avait-il de l'irréductible, un reste de l'histoire, et que peut-être Simone de Beauvoir voulait-elle dire, en parlant du mot floué, qu'elle a été flouée par l'idée que l'histoire pouvait tout résoudre et tout résorber.
Mais Simone n'arrête pas d'échapper à l'histoire. Voilà. C'est très fréquent chez elle. Et je ne sais pas si c'est à son destin de femme qu'elle le doit ou à sa personne. Mais je suis très frappée de ça. Elle n'arrête pas de faire des trouées. Autant elle est puissante dans ses engagements et parfois impérieuse, et parfois trop impérieuse, et on a envie un peu de les calmer, autant, par moments, elle rompt tout cela. Autant elle est capable de dire, par exemple, en 1952, quand Sartre est au cœur de ce début d'un engagement qui va le mener très loin. Elle vient de redécouvrir l'amour en ayant rencontré Claude Lanzmann. Elle part avec lui faire des escapades amoureuses et elle dit « J'étais toute à la joie de ma vie privée ». Tout d'un coup, elle est capable, et c'est, on le remarque rarement, elle est capable de dire que de temps en temps, on a envie d'être dans cet angle de mur où l'histoire ne nous voit pas et où on est dans la vie privée avec un jeune amant et une nouvelle voiture et parti sur les routes.
Alors, maintenant, justement, quelques mots sur cette vie privée avant d'en venir à la trajectoire politique de Simone de Beauvoir à laquelle je faisais allusion dans la présentation. Je le disais, donc, Simone de Beauvoir, c'était davantage qu'une œuvre, ça a été pour beaucoup un modèle d'existence, et beaucoup de gens ont été frappés et modifiés par cette différence que faisaient Sartre et Beauvoir entre l'amour nécessaire et les amours contingentes. Alors, que reste-t-il de cela? Quelle signification peut-on donner à cette opposition une fois qu'on connaît la réalité de la vie de l'un et de l'autre? Et puis, question subsidiaire, Sartre et Beauvoir mettent en avant l'authenticité. Simone de Beauvoir écrit ses mémoires. Il y a là quand même l'idée du tout dire. Il y a cette rupture qu'elle revendique avec les conventions bourgeoises qui corsetaient sa mère, les conventions et les mensonges. Or, elle ne dit rien de son homosexualité. Et personnellement, évidemment, je ne le lui reprochais pas, mais d'une certaine manière, Sartre et Beauvoir, existentialistes, étaient des penseurs du coming out. Et celui-ci ne vient pas. Alors voilà mon double questionnement.
Elle triple même, elle triple ou quadruple votre question. Est-ce que Guyette voulait répondre? Moi, je voudrais dire juste une chose.
Allez-y, vous en prie.
Oui, cette histoire des amours contingentes et nécessaires, je vais la déplacer un peu. Il me semble que notre morale en cette matière, je dirais même la morale du mariage, s'est beaucoup déplacée. Nous sommes passés d'une civilisation qui était marquée par l'héritage du catholicisme à une civilisation qui maintenant s'est déplacée vers les modèles qui sont plutôt ceux du protestantisme d'Europe du Nord. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour nécessaire s'incarnait dans un mariage et les amours contingentes, en général pour l'époux, étaient les liaisons successives qui n'entamaient pas la continuité d'un mariage dont l'épouse plus ou moins faisait les frais. Aujourd'hui, je me souviens très bien moi d'avoir rencontré des femmes, un groupe de femmes en Europe du Nord qui m'ont dit dans votre livre de la vie fantôme, on comprend pas. Cet homme reste marié et a des amours contingentes. Mais chez nous, ça se passe pas du tout comme ça. Nous, nous sommes mariés. Moi, je suis à mon cinquième mariage, moi à mon quatrième, moi à mon troisième. Lorsqu'un amour nécessaire n'est plus nécessaire, eh bien, on passe à un autre mariage. Et je pense qu'au fond, cette logique-là n'a plus tout à fait lieu d'être, parce que le mariage n'a plus ce poids, cette continuité, cette indissolubilité qui était, au fond, l'héritage catholique renouvelé par Napoléon. Ça, c'est un premier point.
Alors, mais donc, ça voudrait dire que Sartre et Beauvoir n'ont fait que donner un vocabulaire nouveau à une vieille histoire.
Je le pense. Bon, je pense que réellement, l'opposition amour contingente, amour nécessaire, d'abord, elle est faite par Sartre. N'oublions pas que c'est quand même Sartre qui dit cette chose inouïe. Nous allons être monsieur et madame morganatique. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage morganatique? C'est le mariage d'un puissant, d'un empereur, d'un seigneur, d'un roi, qui épouse une femme de peu de conditions sociales, dont il ne fera jamais son épouse légitime et dont il ne reconnaîtra jamais les enfants. Ça veut dire qu'il y a une inégalité fantastique dans cette différence. Je crois que réellement, là, il y a une réécriture. C'était mieux aux yeux de Simone de Beauvoir que le mariage de ses parents. Et son père, qui gardait dans son bureau les photos de ses dernières maîtresses, elle trouvait ça horrible. Au fond, elle avait raison. C'était beaucoup mieux, mais c'est tout de même, au fond, un modèle extrêmement classique d'un amour qui dure et d'amour contingent qui ne sont pas faites pour durer. Et c'est d'ailleurs en général au détriment forcément des amours contingentes. Alors le troisième point, celui du coming out ou de la révélation, mais je ne veux pas prendre toute la parole. On va laisser Huguette répondre.
Huguette Bouchardeau.
Je crois que Simone de Beauvoir, il y a deux explications à ce refus de dire son homosexualité. D'une part, il y a une explication qu'on peut trouver philosophiquement tout à fait satisfaisante et de grande valeur sur le plan, oui, sur le plan philosophique, si on veut, c'est de dire on n'est pas défini dans une situation, dans une tendance sexuelle, c'est-à-dire qu'on peut vivre différents types d'amour. Et ceci, je crois que elle le laisse entendre, elle ne se sent pas. Quand quelquefois, certaines de ses biographes se sont autorisées à lui demander ce genre de choses, elle a répondu mais non, voyons, j'ai aimé des hommes. Donc, puisqu'elle aimait des hommes, c'est qu'elle n'était pas homosexuelle et qu'elle pensait qu'on ne pouvait pas se définir ni comme homosexuel ni comme hétérosexuel, mais simplement comme un être de désir qui vit des rapports amoureux avec différentes personnes. Et puis, il y a quelque chose de plus basique, de plus historique, si on veut, de plus lié à son éducation, je crois, et à l'époque à laquelle elle vivait, et qui est une sorte de rétraction, de refus devant ce qu'elle estimait tout de même comme une sorte d'expansion anormale de la sexualité. Et je crois que quand elle décrit, par exemple, ses rapports avec tel ou tel de ses élèves qui pleure à sa porte, qui vient lui la supplier d'avoir une relation amoureuse avec elle, il faut voir comment elle est, d'une certaine manière, dégoûtée, un petit peu rétractée devant une sorte d'exigence sexuelle qu'elle ne comprend, qu'elle trouve surestimée. Il faut se dominer davantage. Et cela ne l'empêche pas d'avoir des relations amoureuses avec cette jeune fille. Et simplement, elle les situe davantage sur le plan de la caresse. Elle n'arrive pas à admettre ce qu'a de submergent une relation physique sexuelle.
Oui, je suis d'accord pratiquement avec tout ce qu'a dit Huguette Bouchardeau tout de suite. D'abord, Beauvoir le dit très clairement, je ne dirai pas tout dans ses mémoires. Elle veut protéger entre autres Olga Kozakiewicz, qui aurait été extrêmement, à qui il sera beaucoup déplu qu'on révèle à la fois ses relations avec Beauvoir, mais qui n'aurait pas été très contente non plus que soit connue la liaison de Beauvoir avec son mari, Jacques-Laurent Bost. Je crois qu'il faudrait de temps en temps traiter Beauvoir comme elle ne se traite pas elle. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on lui fasse accepter, mais qu'on accepte qu'elle peut être encore la proie, sinon de préjugés, tout moins de raisonnements qui sont ceux de l'époque. C'est très clair et ça se voit très bien dans le deuxième sexe. Le portrait qu'elle fait de la lesbienne est un portrait très extérieur, très froid et au fond, le portrait d'un destin assez négatif. Ce qui lui a été très fortement reproché dans les années 70 par des femmes qui voulaient militer pour vraiment une révélation de leur propre sexualité. Je dirais quand même quelque chose. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est que je vois par exemple un étudiant américain quelqu'un dans son université, homme ou femme, hein, garçon ou fille, il a une relation homosexuelle, aussitôt il est sommé de s'inscrire dans une fraternité gay ou dans une fraternité lesbienne, comme si à 18 ans, après tout, il ne pouvait pas changer ensuite de sexualité. Je crois que ce que Beauvoir, peut-être ce qui l'effraie, car j'ai été sensible dans mon livre et je le fais remarquer, il y a beaucoup de choses qui lui font peur. Ce qui lui l'effraie, ce n'est pas, au fond, d'être homosexuel. Je le mets entre guillemets, ça se voit pas. Mes doigts ne se voient pas au micro. Mais c'est surtout qu'il y ait cette espèce de possibilité qui nous déborde. Beauvoir ne veut jamais déborder par quoi que ce soit. Et du coup, la sexualité des jeunes filles l'aurait entraînée. Et c'est normal, c'est quand même elle qui domine, puisque c'est elle qui a 30 ans. Mais la sexualité des jeunes filles l'entraîne dans des voies qu'elle n'est pas sûre de pouvoir maîtriser. Elle craint quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'hystérie féminine, que manifestent d'ailleurs certaines de ses compagnes. Quand elle s'accroche à elle, elle en a peur et elle dit qu'elle en a assez, elle n'en veut plus, elle veut des hommes, c'est plus simple et plus solide. Et elle s'aperçoit que ce n'est pas plus simple ni plus solide, mais tout de même. Et j'aime bien ça chez elle, le fait qu'elle ait peur et qu'elle le contrôle. C'est cela que j'ai voulu montrer au fond dans mon livre.
Bien, alors maintenant je voudrais que l'on parle des engagements de Sartre et de Beauvoir. Ils disent l'un et l'autre, elle écrit... très clairement que avant la guerre, ils étaient indifférents à l'histoire. Celle-ci a fait son entrée, elle a fait irruption violemment dans leur vie avec la guerre, la résistance, et depuis lors, ils ont voulu en tenir compte. Et donc, la guerre leur aurait ouvert les yeux. Or, ce qui me frappe, moi, et je le dis brutalement, c'est leur incroyable cécité. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien compris, et votre livre, Daniel Salave, notamment, est assez accablant, c'est-à-dire que il est empathique, et comme d'un autre côté, vous n'éludez rien, il est accablant, notamment par exemple, pour ce qui concerne Camus, je donne deux exemples là, littéraires, mais qui sont liés justement aux engagements de Sartre et de Beauvoir, Camus, Pasternak. Camus publie « L'homme révolté ». Il y a cette grande polémique autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le totalitarisme entre l'intelligentsia progressiste et Camus, qui devient le pestiféré de cette intelligentsia. Et voici ce que Simone de Beauvoir écrit à Nelson Algren sur « L'homme révolté ». Ne le lisez pas, la droite l'adore en bloc parce qu'il y démontre que rester tranquillement assis dans un fauteuil à faire du fric suffit à faire de vous un romantique révolté. C'est sidérant, plus sidérant encore, parce que là, il ne s'agit pas d'une lettre, il s'agit d'une œuvre maîtrisée et destinée à être lue, ce que Simone de Beauvoir écrit à propos de Pasternak, du docteur Jivago et du prix Nobel décerné à Pasternak, parce que l'auteur ne m'apprenait rien sur un monde auquel il semblait s'être fait délibérément aveugle et sourd, je parle donc du docteur Jivago, et il l'enveloppait d'un brouillard où il se dissolvait lui-même, pour avaler ce pavé de brume compacte, il faut que la bourgeoisie ait été soutenue par un fanatisme puissant. J'ai relu récemment le docteur Jivago, pavé de brume compacte, c'est ça qui est dur à avaler.
Oui, mais vous touchez du doigt, évidemment. Quand vous dites que c'est une empathie accablante, je trouve que c'est une assez bonne formule parce que je pense que l'empathie était indispensable. Et je maintiens de bout en bout que c'est un très grand écrivain, une femme de très grande stature. Mais pour pouvoir le montrer, je ne devais rien éluder, y compris mes propres moments de résistance. Alors, l'affaire Camus est complexe, elle est surdéterminée. Il y a évidemment la réaction de Camus au moment du deuxième sexe, ses propos très grossiers sur elle, sur son homosexualité qui la rendait incapable de comprendre ce qu'était un vrai homme, un mâle latin, etc. Mais il est évident que dans la querelle avec Camus, personnellement, je ne trouve pas que L'homme révolté soit un très grand livre, mais l'avoir passé, dans tous les détails en tout cas, mais l'avoir passé entièrement par Profits et Pertes, avoir refusé de voir à quel point Camus, très tôt, comme Merleau-Ponty d'ailleurs dans les mêmes temps, se sont non pas séparés du camp du progrès ou de l'émancipation des peuples, ils se sont séparés de leur imposture et de leur caricature stalinienne, avec une netteté qui ne fait aucun doute et qui, là, a été rejetée violemment, aussi bien par Sartre que Simone de Beauvoir. L'affaire Pasternak est encore une autre affaire. Elle témoigne aussi d'une profonde ignorance de ce qu'était Pasternak, de ce qu'était cette réalité soviétique et de ce qu'était exactement le docteur Jivago et la situation de Pasternak. Il faut quand même voir que Pasternak, en deux mots, est quelqu'un qui, lorsqu'il écrit « Ma sœur, la vie » au lendemain de la Révolution russe, est quelqu'un qui pense que la Révolution russe est indispensable et qu'elle va changer un ordre injuste en un ordre juste. Il est l'ami de Boukharine et c'est en 1936, au moment des grands procès de Moscou, qu'il se sépare totalement et définitivement de cette logique stalinienne et qu'il écrit le docteur Jivago dans la suite de sa vie, qui est un immense roman et un roman admirable. Non pas un roman de quelqu'un qui n'a rien vu, mais le roman de quelqu'un qui a tout vu, qui a parfaitement vu la chose et son contraire, la révolution et sa chute dans l'imposture.
Guido Bouchardeau.
Je suis frappée aussi par la différence entre ce que font, ce qu'écrivent Sartre et Beauvoir sur les sujets que vous venez d'évoquer par rapport avant la guerre avec la position d'une Simone Veil, par exemple. Simone Veil qui a tout de suite eu la sensibilité. Il y a un voyage en Allemagne de Simone Veil qui est à peu près exactement de la même période que le voyage de Sartre et de Beauvoir qui se promènent et qui regardent les paysages, le folklore, au lieu de voir ce qu'est la montée du nazisme.
Oui, mais après-guerre, elle a dit « j'ai ouvert les yeux ».
Oui, mais après-guerre, on retrouve... Après-guerre, elle ferme aussi les yeux, d'une certaine manière, parce qu'elle fait partie, avec Sartre, et là, ils ne font pas théorie d'être véritablement des individus qui mettent très haut leur désir de vérité, de liberté, de tous ces intellectuels qui ne voulaient pas s'éloigner de ce qui était l'humanité souffrante, qui était supposée incarner par le Parti communiste. Et Sartre avait beau avoir été traîné dans la boue par le PC, lorsqu'ils iront en Chine... Et elle écrira, par exemple, ce livre un petit peu étonnant, qu'elle a longtemps.
Je suis moins persuadée que vous que c'est au nom de l'humanité souffrante ou du prolétariat écrasé. Je crois qu'il y a réellement chez eux un anti-anticommunisme. C'est-à-dire qu'il y a, ils sont dans une logique où l'ennemi principal, c'est cette bourgeoisie. Quand Sartre dit « je conçus pour la bourgeoisie une haine qui ne finira qu'avec moi », cette bourgeoisie, l'ennemi de la bourgeoisie étant ce communisme, ils deviendront plus anti-anticommunistes communiste. Et j'ajouterais qu'il faut voir que c'est tout de même un temps de polarisation très forte, un temps de propagande et de contre-propagande. Je ne mets pas sur le même plan le macartisme et le goulag. Je ne suis quand même pas égarée à ce point. Mais il est évident qu'il y a des formes. Oui, je pense que le goulag est pire. Mais je crois qu'il y avait des formes de propagande qui faisaient que par réaction, le monde, le pari de l'avenir et l'émancipation. Est-ce que je pourrais ajouter juste un tout petit mot ? Ce qui me paraît avoir été, et Michel Kay l'a très bien montré dans plusieurs articles là-dessus, il a écrit un livre Beauvoir philosophe. Je crois que ce qu'ils ont manqué, c'est qu'ils sont passés imprudemment d'une logique de l'émancipation individuelle, de l'auto-émancipation, à la logique de l'émancipation collective, où cette fois-ci ils ne font plus confiance dans les peuples. Les peuples sont trop jeunes ou trop arriérés, ils doivent passer par un leader suprême qui va les guider. C'est ce saut-là qui a été le saut mortel pour l'intelligentsia de gauche, je le pense. Ayant moi-même partagé pendant quelque temps la grande espérance dans cette lueur venue de l'Est, et la splendide promesse faite au tiers-État, je suis, à mon sens, bien placée pour le dire.
Et peut-être aussi n'ont-ils plus su voir les individus eux-mêmes quand ils sont passés de l'individuel au collectif. Alors, deux mots sur ce sujet. D'abord, je voudrais rappeler le très beau texte qu'Octavio Paz a écrit à la mort de Sartre. Il est publié dans Rire et Pénitence sous le titre « Memento ». Il parle de la myopie historique de Sartre. Pour lui, le soleil de la réalité n'a jamais brillé. Et il a cette phrase très forte et qui, je crois, peut s'appliquer à Simone de Beauvoir. Je crois que ce n'était pas un bon voyageur. Il avait trop d'opinions parce qu'ils ont énormément voyagé. Et je crois, et là, ça a peut-être à voir avec cette passion de l'absolu dont vous parlez dans votre livre Daniel Salnave, avec cette phrase incroyable de Simone de Beauvoir que vous citez également. La vérité est une, l'erreur est multiple, c'est pourquoi la droite professe le pluralisme. Ce qui est multiple, c'est l'humanité, c'est la pluralité humaine. Et je voudrais isoler pour finir cette phrase magnifique du docteur Jivago à propos d'un personnage, justement, entraîné dans la Révolution. Pour qu'il fît le bien, il aurait fallu que son rigorisme se doublât de cette tolérance de cœur qui ignore les cas généraux, ne veut connaître que les cas particuliers et atteint à la grandeur en faisant de petites choses. Ils ont voulu ignorer les cas particuliers puisque précisément leur monde était à deux dimensions.
Est-ce que je pourrais juste dire un tout petit quelque chose ? C'est pourquoi j'attache une importance toute particulière au livre de Simone de Beauvoir, Une mort très douce, devant le corps de sa mère mourante, c'est-à-dire qui incarne la faiblesse absolue, avec ses yeux qui demandent encore à vivre et ce corps qui va mourir. Elle découvre quelque chose à quoi jusque-là elle n'avait pas pu donner forme philosophique qu'elle appelle la compassion. Et elle dit « la compassion me déchirait ». Elle découvre la force infinie de la faiblesse. Et découvrir la force infinie de la faiblesse, je trouve que c'est magnifique. Je ne l'ai pas trouvé chez Sartre, je l'ai trouvé chez elle. Car l'empathie chez Sartre, c'est tout l'inverse. C'est se mettre dans les autres. Alors que Beauvoir accueille en elle-même cette mère mourante et découvre la force infinie de la faiblesse. Je lui sais gré d'avoir... tard peut-être, mais d'avoir fait cette découverte.
Je voudrais rappeler simplement que la divergence Sartre-Camus, et donc Beauvoir, Simone de Beauvoir-Camus, portait aussi sur le statut qu'il faut donner à la haine. Camus ne cessait de dire « les hommes ne vivent pas que de lutte et de haine », et Sartre dit « toute la valeur qu'un opprimé a pour lui-même, il la met dans la haine qu'il voue à son oppresseur, dans ce monde ». À deux dimensions, il y a un amour de la haine, c'est le sentiment politique par excellence. Camus dit, c'est le sentiment que nous avons éprouvé pendant la guerre, en tant que résistants, mais pour refaire notre mentalité politique, il faut en sortir. Donc je crois que là, il y a une divergence fondamentale, et vous dites, au fond, d'une certaine manière, Simone de Beauvoir a échappé à cette espèce de passion de la haine à un moment dans Une mort très douce, avec cette compassion qu'elle découvre. On fête aujourd'hui le 100e anniversaire de la mort de Simone de Beauvoir, et je trouve qu'on le fête dans l'idolâtrie. Elle a été extraordinaire, c'est une pensée de l'émancipation, etc. Cette idolâtrie me fait peur, parce que c'était comme si c'était une victoire posthume du progressisme sur un antitotalitarisme dont on n'a plus rien à faire, puisque le totalitarisme a disparu. Alors, est-ce que je vais trop loin ?
Et je crois qu'il faut lire certains textes de Simone de Beauvoir, en particulier dans les temps modernes, ce texte un petit peu étonnant qu'elle a écrit sur la pensée de droite. La pensée de droite se définissant pour elle comme mettant l'individu au centre de tout. Et lorsqu'elle entre dans ce genre de réflexion, elle veut faire des démonstrations qui sont des démonstrations justement de la prééminence que doit toujours avoir une certaine théorie, une certaine idéologie des masses militantes, combattantes, qui doivent triompher dans l'histoire. Et je pense que là, on a, à part le beau petit passage dont vous parlez à travers ce très beau texte sur sa mère, mais je pense qu'on a là le résumé un petit peu de tout ce qui est cette idéologie qui était une idéologie dominante chez presque tous les penseurs de gauche dans ces périodes et qui leur donnait une sorte de torticolis de voyage, c'est-à-dire ils avaient toujours la tête tournée ailleurs. Où se passe la révolution ? Alors, il y a eu l'URSS, mais Staline. Alors, il y aura Castro et Cuba, et puis il y aura le Portugal, et puis il fallait toujours chercher ce que devait être le paradis réalisé des espoirs anti-individuels.
J'espère ne pas être rangé au nombre de ceux qui créent une idolâtrie de Simone de Beauvoir.
Vraiment, je l'ai dit tout à l'heure.
J'ai voulu être dans une empathie. Mais ce qui me paraît très, très sensible, c'est que chez Simone de Beauvoir, la loyauté qu'elle a envers Sartre, cette espèce de compagnonnage qui fait qu'elle vient à son secours et parfois va plus loin que lui, est plus rude que lui, par exemple envers Merleau-Ponty, m'a poussé, moi, à aller voir dans ses romans, dans sa correspondance, souvent de grandes ruptures. posture de ton. Dans les moments même où elle le soutient, dans sa querelle contre Merleau-Ponty ou Camus, elle écrit les mandarins. Dans les mandarins, Anne et Dubreuil, qui sont un peu l'équivalent d'elle et Sartre, hein, la femme du grand intellectuel. Eh bien, Anne doute. Anne a très peur dès ce lendemain où s'engage Dubreuil. Elle se dit, compensera-t-on plus tard? Est-ce qu'on ne pensera pas qu'il s'est trompé? Jamais elle ne le dira publiquement. Elle le dit, elle le révèle à travers ses romans. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est qu'elle a voulu, en effet, donner d'elle une image unifiée, unifiante, et son volontarisme, son absolutisme s'y est donné à plein. Et j'ai voulu voir les moments de rupture auxquels elle ne veut pas, très certainement, qu'on s'intéresse trop. Mais c'est à nous de le faire, pour éviter que l'encens au pied de la statue vienne brûler trop l'image à force de fumer.
Donc il y avait quelques lézardes dans le castor de guerre.
Il y en a.
Bien. Merci beaucoup, Huguette Bouchardot. Merci, Daniel Sannard. Je rappelle les titres de vos livres. Huguette Bouchardot, donc, c'est la biographie de Simone de Beauvoir, publiée sous le titre Simone de Beauvoir dans la collection Grande Biographie de Flammarion. Daniel Sannard, Castor de guerre, publié donc chez Gallimard. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre L'opinion est-elle la reine du monde? Mes invités seront Jacques Julliard et Alain Duhamel. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Claire Poinsignon et Didier Lagarde, à la technique Claire Levasseur, dans un instant, Jean-Noël Jeannonet.